Timothée, il vous fait peur, il vous montre déjà combien il y a de diapos. Mais j'ai été sage, j'en ai pas mis de trop. Alors pour commencer, on va donc ça va parler de la sagesse, c'est écrit. On va lire juste quelques passages dans 1 Corinthiens. Et après, on retournera sur d'autres passages. Donc, je vous ai épargné les versets, bon, sauf pour les premiers, parce qu'ils sont assez longs, ça vaut le coup de chercher. Et après, je vous ai simplement mis les versets affichés, comme ça on gagnera aussi du temps. Donc, dans 1 Corinthiens 1, verset 17. Peut-être l'un des passages les plus connus sur la sagesse, en fait. Donc 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alors après, au chapitre 2, les versets 6 à 10. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Un peu plus loin, au verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Et donc encore un petit peu plus loin, au chapitre 3, à partir du verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, et il sait qu'elles sont vaines. Bien, donc, c'est les trois premiers chapitres de Corinthiens, donc qui parlent beaucoup de la sagesse, et j'ai envie de dire des sagesses, en fait, celle du monde et celle de Dieu. En tout cas, moi, c'est la différence que j'en ai fait. Et c'est quelque chose qui m'a... En fait, le Seigneur m'a interpellé beaucoup sur ça, et je sais pas si vous l'avez entendu quand Norman est venu, mais il en a parlé. Alors, c'était complètement hors sujet, je pense, par rapport à ce qu'il disait, mais moi, c'était quelque chose qui me concernait, donc il y a une paire de choses qu'il a dit qui parlait de la sagesse et qui, globalement, me disait, ben... Tes diplômes te servent à rien pour me connaître. Ça, c'était juste pour moi. Et tu peux pas juste par tes propres facultés apprendre à me connaître. Et ça m'a beaucoup travaillé, et je peux même plus vous dire quels étaient les versets de Norman, quels étaient ses propos, mais j'ai retenu l'idée qui était très simple. Parce que, en fait, une fois qu'il y a trop de diplômes, on n'a plus de place, il faut des idées simples. Et j'ai retenu que les choses simples. Donc j'ai recherché un peu les passages sur la sagesse. Et donc je vais voir avec vous juste un peu ce que j'ai pu en retirer, ou en tout cas l'essentiel. Donc je vais faire appel à Timothée pour les diapos. Donc dans Proverbe 3, verset 6, on a le verset « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Oula, j'aurais dû faire plus grand. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Alors c'est l'un des passages qui m'a le plus marqué, parce que c'est celui que Janet m'a donné avant que j'aille à mon concours. Il y a 2 ans maintenant. Alors, je pense que vous connaissez encore l'histoire, ou je vous la rappelle. Il y a des têtes un peu mitigées. Bon, je vous la rappelle. Alors, donc ça a été tout bizarre, hein, cette affaire de concours et de travail que j'ai eu. Bon, il y a eu toute une affaire avec l'écrit, tout ça. Et finalement, j'ai été accepté à l'oral d'un concours d'informatique. Donc je me suis préparé dans ma tête en me disant, bon, faut que j'arrive à les amener là où je maîtrise à peu près, ou je suis le moins mauvais en fait, puisque à la base je faisais pas d'informatique. Pendant bien longtemps avant, je me suis préparé en me disant, faut que j'arrive à orienter les questions sur ça, à parler de ça, à éviter ça parce que j'y connais rien. Et donc je m'étais fait tout mon plan, tous mes discours. Vous savez, la nuit on rêve, et puis en fait on se fait déjà l'entretien blanc, on prépare tout. Et de toute façon, en général, ça fait complètement autre chose que ce qu'on avait prévu. Mais bon, je me suis préparé quand même. Et le matin même, donc toujours en train de cogiter avant d'aller à Paris, parce que c'était en début d'après-midi à Paris, donc j'avais le temps de réfléchir. Janet m'appelle et me dit, j'ai ce verset-là pour toi. Donc elle me le donne, et puis c'est vrai que ça m'a travaillé un petit peu. Et puis, en voiture, je me suis dit, mince, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Laisse tomber tout ce que toi tu peux préparer, fais-moi confiance, c'est moi qui vais m'occuper de toi, c'est moi qui vais m'occuper de ce concours-là. Donc j'arrête mes idées, je me dis, c'est tout, faut que j'arrête de cogiter et que je fasse confiance au Seigneur, c'est pas moi qui vais l'obtenir. Je me présente à l'oral, je me fais descendre, rien ne se passe comme j'avais prévu, parce qu'en fait, eux aussi préparent leur oral, les examinateurs. Et ils savaient très bien où ils voulaient m'amener, et c'était exactement là où je voulais pas aller. Donc bon, voilà. Globalement, on en arrive à la conclusion que l'un des ingénieurs me dit, bon, monsieur Terrier, faut être honnête, vos capacités en informatique, elles sont faibles, voire nulles. Je lui dis, ouais, mais je peux apprendre, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc après, il y a encore quelques discussions, mais globalement, voilà, il a conclu l'entretien et m'a dit, bon, c'est plié, tant pis, je ferai autre chose et je repartirai en chimie. Donc je ressors du concours pas très convaincu. Finalement, la note m'a donné raison, parce qu'il m'a mis un 9 sur 20, et il m'a traîné tout en bas du classement de ceux qui étaient admis. Parce qu'en fait, j'ai été admis au concours et j'étais le dernier du classement. Et ça aussi, ça revient sur ce verset-là, c'est pas ta sagesse à toi, je te place pas en premier, en deuxième ou tout en haut, je te mets tout au bout. Le dernier. T'es admis quand même, mais t'es dernier quand même. Et ça m'a beaucoup travaillé, et c'est vraiment pour moi, c'était le passage qui montrait que le Seigneur m'avait donné ce travail-là. Et le pire, c'est quand il a fait ça superbement, comme d'habitude, on est allé à une réunion à Paris où il y avait la liste des postes, et forcément, on commence par le premier. Donc il y avait 26 personnes avant moi qui choisissaient leur poste, et un poste à Lille. Et puisque je suis là, vous vous doutez que ça s'est passé très bien. Dès que les gens ont dit, moi je veux Paris, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et arrivé au 27e, monsieur Terrier, il vous reste Lille. Bon, tant pis, hein, je prends ce qui reste, hein. Il n'y a pas le choix. Donc voilà, ça c'est la main du Seigneur, et c'est sa sagesse à lui. C'est pas ma façon à moi de faire les choses, c'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit. C'est lui qui a pourvu. Donc c'est un des passages qui m'a fort marqué. Et j'ai écrit en haut de sagesse. Pourquoi ? Parce qu'il y a la nôtre. On s'appuie sur ce que nous on sait faire, sur ce que nous on connaît, et sur nos plans, nos pensées à nous. Et en fait, on s'appuie pas sur ce que fait le Seigneur. Et ce que fait lui, c'est totalement différent. C'est pas le même monde. Il y a rien de comparable entre ce que nous on peut penser, ce que nous on peut prévoir, organiser, et ce que lui il fait. Et quand il prévoit, il fait. Il y a pas de différence. Si tu peux passer à la diapo suivante. Donc dans Proverbe 8, verset 11, « Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Et dans, donc on voit beaucoup de proverbes comme ça, hein. Proverbe 16, verset 16, mais il y a encore plein d'exemples. « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or ? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent ?» Et dans Job, je trouve que la formulation est jolie en fait, et je suis souvent passé dessus sans le voir, et en fait c'est un joli passage. « Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale. » Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Il y a beaucoup d'idées dans les premiers versets, ça fait juste le... Ça parle juste de la valeur de la sagesse, et c'est certainement pas la valeur de notre sagesse. Ça parle juste que la sagesse de Dieu, elle a une grande valeur, et c'est pour ça que je vous encourage à la rechercher. Elle vaut plus que l'or, plus que l'argent, plus que les perles, le corail, le cristal, tout ce qui est écrit dans le verset de Job. Et le deuxième passage, donc le dernier, pardon, dans Job 28, il y a des idées en plus, dont celle que d'où vient la sagesse? Où est sa demeure, où est l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. De nous-mêmes, on ne peut pas acquérir la sagesse, on ne peut pas la voir même. Donc on ne peut pas l'attraper en fait. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Même le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. Et c'est Dieu seul qui en connaît le chemin. Je rajoute seul, mais il n'y est pas, mais c'est, en fait c'est l'idée, il n'y a que Dieu qui connaît le chemin de la sagesse. Donc du coup... Pour obtenir la sagesse, le seul moyen, c'est d'aller vers Dieu. C'est pas de faire des études, c'est pas même, je pense, des fois on se dit, bon bah je vais lire la parole et puis je vais apprendre des choses de Dieu, je vais connaître, moi en tout cas je me fais mon idée que on peut acquérir de la sagesse finalement en lisant la parole. Oui et non. Bien sûr, sinon ça servira à rien, mais on peut juste acquérir des connaissances sur Dieu. S'il ne vous donne pas la sagesse lui-même, alors toutes les connaissances que vous accumulez, ce n'est pas sa sagesse à lui. C'est juste des connaissances sur lui. Et ce n'est pas juste en lisant la Bible, en faisant une étude de texte, en faisant des choses comme on apprend à l'école ou comme on fait dans le monde, en philosophant sur la Bible, qu'on pourra s'approcher de Dieu et qu'on pourra gagner en sagesse. Il faut d'abord lui demander... Et après, il nous donnera les moyens de comprendre sa parole et de la manier comme il le faut. Mais c'est pas en lisant et en m'appliquant moi-même par mes propres efforts que je peux devenir sage comme ça sans l'aide de Dieu. C'est lui seul qui connaît le chemin de la sagesse. Et si tu peux passer à la diapo suivante. Donc dans 2 Chroniques 1, verset 10... Donc ça, c'est l'histoire que vous connaissez tous, ça parle de Salomon, qui dit « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Dieu dit à Salomon « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. » Et le suivant donc, « Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à avoir Salomon, et ce qui est important dans ce verset, c'est pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. » Alors c'est l'exemple le plus connu de personne qui a reçu la sagesse de Dieu, et ça s'est vu, Jésus en parle après dans le Nouveau Testament, mais c'est vraiment pour marquer qu'il faut la demander au Seigneur, et c'est lui qui l'accorde, et Salomon ne l'a pas obtenu lui-même. Et Salomon, il avait quand même compris que c'était plus important que les richesses, que la gloire, que les biens, qu'un tas de choses. Et je me suis posé la question pour moi-même, mais si, qu'est-ce que je demande le plus à Dieu? Est-ce que je demande de la nourriture? Est-ce que je demande d'avoir assez pour vivre? Est-ce que je demande, je sais pas, un travail ou je ne sais pas trop quoi d'autre, ou est-ce que je demande la sagesse? Qu'est-ce que je recherche en premier? On a eu tout à l'heure que la sagesse, elle vaut cher, en fait. Elle vaut plus que les perles, plus que l'or. Et donc, il faut rechercher avant les perles, avant l'or, avant le reste. On retrouve après dans la même idée que ça, sur la diapo suivante. Donc dans Job 38, verset 36, tout en haut, « Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit ?» Et Proverbe 2, verset 6, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Donc ça revient juste sur l'idée que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est Dieu seul qui donne la sagesse et il faut aller auprès de lui pour l'obtenir. Et le verset suivant dans Jérémie, il est fort adapté à nous en fait. « Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous ? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils ? C'est pas parce que j'ai la Bible, parce que j'ai la parole de Dieu, que d'un seul coup je suis sage et que... Bon là, ça revient un peu à dire à que je peux tout me permettre, que je peux finalement l'interpréter comme je veux et faire ce que je veux. Mais je retiens l'idée que c'est pas parce que j'ai la loi de l'Éternel que ben voilà, tout est fini, je suis sage et j'ai rien à rechercher. Le Seigneur, il a beaucoup de choses à nous montrer dans la parole, beaucoup de choses à m'apprendre. Et je dois pas me contenter juste de me dire, ben voilà, je suis chrétien, c'est bon, enfin... On a tendance des fois à s'asseoir un peu en fait, et ça c'était un encouragement pour moi à me dire, ben même les scribes, les pharisiens qui avaient la Bible, qui la connaissaient dans un sens, pas dans le bon, mais qui la connaissaient quand même, ils ont été critiqués par Jérémie, par Dieu, parce qu'ils pensaient avoir la loi et être tranquille, voilà, ben j'ai la loi, j'ai plus rien à faire. Mais non, c'est pas parce que j'ai la loi que j'ai tout. Il me faut la sagesse pour la comprendre, et il me faut la sagesse aussi pour pas la mépriser. C'est la fin du verset, voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et du coup, même en ayant la loi, ils n'ont aucune sagesse, parce qu'ils ne savent pas l'utiliser, parce qu'ils ne savent pas la vivre non plus, il leur manque toute une partie. Et c'est un encouragement pour nous aussi, à pas juste nous contenter de tout ce qu'on a autour, mais à demander le Seigneur qui nous aide à vivre, qui nous aide à pas le mépriser. Parce que ça aussi, c'est important pour nous de pas mépriser la parole. On a tendance à nos Bibles qui s'abîment beaucoup. Alors si c'est juste parce qu'on la lit beaucoup, c'est bien. Mais si c'est parce que je rentre à la maison, je la balance sur le canapé, ou parce qu'elle traîne n'importe où, c'est qu'un bouquin, mais c'est ce que ça représente. Et spirituellement, qu'est-ce que je fais de la parole? Est-ce que je me dis, la Bible, j'en ai plein, ouais, on l'entend le dimanche, on l'entend le mardi, ouais, je l'entends déjà assez, je vais pas la lire plus que ça. Est-ce que je la lis que le matin? Est-ce que je la lis que le soir? Quelle valeur je lui accorde? Est-ce que j'y puise régulièrement tous les jours, j'y reviens parce que j'en ai besoin, ou est-ce que je la méprise? Les scribes et les pharisiens, ils pouvaient pas connaître Dieu parce qu'il leur manquait, quelque chose. Et pas juste la sagesse, en fait. Mais nous non plus, on peut pas connaître Dieu juste, comme je vous disais tout à l'heure, par l'étude de la Bible. Et si... Je me suis dit, si finalement il fallait une intelligence selon le monde pour comprendre la Bible, pour l'étudier et tout ça, ce serait terrible. Parce que ça veut dire qu'il n'y aurait que les bac plus 5 au-dessus, ils peuvent comprendre la Bible, les autres c'est fini. Ça vous choque pas plus que ça, quelques petits sourires. Non mais c'est vrai que c'est terrible, s'il fallait être intelligent, savoir faire une étude de texte correctement pour lire la Bible, je serais pas là non plus parce que les études de texte n'étaient pas bons. Et c'est pas par ces moyens-là, par notre intelligence, par notre compréhension des choses, par les techniques qu'on apprend à l'école, par les techniques humaines, qu'on peut connaître Dieu. Il nous faut sa sagesse. Je suis lourd, hein, j'insiste, mais c'est important. Et de toute façon, le Seigneur, il est tout aussi insistant avec moi, en fait. Il en a besoin. Alors, il y a le verset suivant. Qui est un peu le parallèle de Jérémie, le dernier qu'on a lu. Le Seigneur dit, donc dans Ésaïe 29, verset 13, j'aurais pas dû mettre le fond en fait, ça fait beau mais on voit rien. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. C'est la source, en fait, de ce qu'on retrouve dans 1 Corinthiens. Et donc, ça résume un peu ce que je vous disais sur les scribes, c'est qu'ils pouvaient étudier la Bible, ils pouvaient faire des études de texte autant qu'ils voulaient, ça leur servait à rien parce que leur cœur, il était loin de Dieu, et qu'ils avaient aucune crainte de lui. Et c'est ça qu'il faut rechercher, pas juste dire « Seigneur, je veux ta sagesse, je veux connaître ta parole, je veux pouvoir sortir des versets, je veux pouvoir convaincre les gens avec des versets et tout ça. » C'est pas le but. Le but, c'est que notre cœur, il soit proche de lui, qu'on ait une crainte de lui et qu'on le connaisse réellement. C'est pas parce que je connais le numéro de carte bancaire de Maï, son code, son adresse et tout un tas de renseignements que je connais Maï. Je la connais d'un point de vue des RG, mais je la connais pas comme quelqu'un qui vit avec elle. Et avec Dieu, c'est pareil. C'est pas parce que je connais un tas de versets, que je connais plein de choses sur lui de manière textuelle, que je le connais. Je le connais comme les RG, en fait. Je fais une enquête sur lui et malheureusement, c'est souvent comme ça. En tout cas, c'est valable pour moi, hein. Je généralise souvent, mais c'est souvent comme ça que j'ai étudié la parole en disant, faut que je regarde ça et quelle structure elle prend la phrase et tout ça. Et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on peut connaître le Seigneur. Alors, c'est des outils qui aident, parfois. Faut pas tout rejeter en bloc. Mais c'est pas là la chose principale. Alors, le dernier verset. On recommence tout. C'était la diapo d'avant. Voilà. Donc, le dernier verset dans Marc 6, verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Donc, ça parle de Jésus. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient : d'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? Il se posait la question à propos de Jésus parce qu'il était fils de charpentier. Qu'est-ce qu'il y connaît à Dieu, lui, qui est fils de charpentier ? Et ça refait lien, encore une fois, avec peu importe, dans un sens, l'éducation, peu importe les diplômes, peu importe ce que vous apprenez par la suite, votre vécu, la sagesse, elle ne vient pas de ces choses-là. Elle ne peut pas venir de ça, et en tout cas la sagesse de Dieu. La sagesse des hommes, oui, on l'acquiert comme ça avec l'expérience. Mais la sagesse de Dieu, elle est donnée. Et même à Jésus, finalement, on voit quelle est cette sagesse qui lui a été donnée. Et lui aussi, il était Dieu, donc il l'avait de par nature. Mais lui, la sagesse, elle était donnée par Dieu. C'est ce que dit le verset, en fait, c'est ce qui est important. D'ailleurs, quand on dit ça de Jésus, il me semble que c'est quand il a 12 ans dans le temple. Donc au niveau vécu, ça va, il n'y a pas attendu 40 ans pour avoir de la sagesse, ou 50 ou plus, hein, moi je dis ça comme ça, je suis pas encore à 40, donc je me mets un objectif. Mais il n'a pas attendu 40 ans d'avoir un vécu, d'avoir vu plein de choses, et qu'après il puisse aller vers les gens, et leur dire, moi je l'ai vécu ça, tu sais, là je m'y connais, là ça je sais. Il n'avait pas besoin de ça, à 12 ans il pouvait déjà les enseigner sur la parole de Dieu. En tout cas, même si le verset-là, il ne s'applique pas directement à cette période-là, ça parle de Jésus et il avait, je suis persuadé, la même sagesse quand il était dans le temple. Les gens se sont étonnés, ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il enseigne même les pharisiens. Il avait 12 ans. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre les années pour connaître Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir une longue expérience avec Dieu pour dire, ça c'est bon, maintenant je commence à le connaître un petit peu, ça fait 20 ans que je vis avec lui, bon... En fait, au bout de très peu de temps, on peut connaître Dieu. Simplement si lui nous donne la connaissance de lui. Et verset suivant. Donc dans Proverbe 9, verset 10, ça c'est aussi des proverbes très connus. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Et en dessous, il n'y a ni sage, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Et celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Et là, on commence à avoir une notion presque de Nouveau Testament, on va dire, où le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Je ne sais pas si à un moment, ce n'est pas connaître l'Éternel aussi dans certains proverbes. Et celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. On commence à avoir des notions comme ça de la sagesse, en fait, ce n'est pas juste de la connaissance ou une certaine façon de penser, c'est connaître Dieu et être sauvé par lui. Et les versets suivants, après, en fait, ils vont être plus clairs. Mais donc ça, ces versets-là nous disent ça. Ce ne sont pas des rites non plus, la sagesse. C'est une façon de vivre. C'est ce qu'on voyait avec les scribes ou les pharisiens. Ils avaient une connaissance de Dieu, mais ils ne le vivaient pas du tout. Ils avaient un tas de rites, de façons de faire les choses, de religiosité, mais ils ne le connaissaient pas. Et du coup, c'était pas ça, la sagesse. Et donc, si nous, on veut apprendre à être sage, si on veut être sage, puisqu'on ne peut pas apprendre à être sage, je me contredis moi-même, il faut apprendre à connaître l'Éternel, en fait. C'est aussi simple que ça. Il faut pas juste se dire, ben, je vais demander à Dieu la sagesse. Demandez pas à Dieu la sagesse, demandez à Dieu de le connaître lui. Et c'est ça, la sagesse. C'est ça que dit le verset, en fait. C'est la crainte de l'Éternel, c'est connaître l'Éternel. Alors le verset suivant, ben c'est l'idée sur laquelle je voulais arriver. Ecclésiaste 1, verset 17. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Juste appliquer son cœur à connaître la sagesse, c'est du vent. C'est de la vanité, ça sert à rien. C'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. Et du coup, si je vous encourage aujourd'hui à chercher la sagesse, je vous encourage à connaître le Seigneur simplement, à le rechercher lui. C'est pas juste le rechercher pour obtenir la paix, pour obtenir la joie, pour obtenir la sagesse. On peut demander toutes ces choses-là au Seigneur. Mais la chose principale à demander, c'est de le connaître lui. Et alors, on obtient ces choses-là en retour. Mais si on est chrétien et que c'est juste pour obtenir de la sagesse, alors on devient un peu philosophe, on devient un peu, je sais pas trop quoi, mais on n'est pas chrétien, en fait. Chrétien, c'est pas juste être sage selon Dieu, c'est le connaître. Et du coup, être sage. Alors, c'est aussi le... Non. Le verset suivant dans Jacques, oui. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est-à-dire que tu peux la demander quand même. C'est pas interdit et se dire, voilà, oh faut que je recherche juste Dieu et bon voilà, si je demande la sagesse, c'est mal. Non, il faut la demander aussi. Mais il faut pas juste chercher toutes ces choses-là pour elle-même. Il faut chercher Dieu pour Dieu. Après, on peut aussi avoir à manger, on peut aussi avoir de la sagesse, on peut aussi avoir d'autres choses. Mais c'est secondaire, si vous me suivez dans l'idée. Donc, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et dans un sens, ce verset, il n'est pas étonnant quand on dit qu'il demande à Dieu, il lui sera donné. C'est pas exceptionnel dans le Nouveau Testament. Il y a plein de versets, alors ils sont très très connus aussi à la suite. Je les mets juste là, mais tout ce qu'on demande à Dieu, il le donne. On a plein de versets, là c'est ceux dans Luc, où on dit « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et quelques versets plus loin, donc Luc 11, verset 13. « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Donc si je demande la sagesse, il faut que j'y aille avec confiance, que Dieu va me répondre et qu'il va me la donner. Si finalement toute ma vie je la passe à me dire « Seigneur, donne-moi la sagesse », c'est-à-dire que toute ma vie le Seigneur ne me répond pas et que finalement j'en suis toujours au même point. Et ça c'est aussi quelque chose qui me fait bloquer, des fois j'ai l'impression de tous les matins, vous savez, dire « Bon, là, sagesse, c'est pas encore ça. Allez, je repris le Seigneur, je vais lui demander encore une petite couche de sagesse. Je suis dans la peinture, hein, donc du coup, les couches, les multicouches, je connais. Je vais redemander encore un peu de sagesse au Seigneur, parce que là, j'ai fait ça hier, c'est pas terrible. Et je dois demander au Seigneur une fois, et je dois lui faire confiance qu'il me le donne après. Ça sert à rien de toujours demander la même chose, et il faut juste lui faire confiance qu'il donnera, comme le disent quasiment tous les versets de la Bible en fait. Tu peux passer à la diapo suivante. Dans Ésaïe 11, verset 2, on est passé dessus il n'y a pas longtemps le mardi soir. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et dans 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand je vous disais tout à l'heure, en fait, qu'on ne peut pas rechercher la sagesse pour elle-même, il faut rechercher Dieu. Et ces versets-là, ils disent la même chose. Cherchez le Saint-Esprit, demandez le Saint-Esprit à Dieu, et alors vous aurez l'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est cet esprit-là, c'est de lui qu'on parle en fait dans Ésaïe, et c'est de lui dont on parle après dans Timothée. L'esprit de Dieu, c'est lui qui vous donne la sagesse, c'est lui qui vous donne la force, l'amour, la crainte de l'Éternel, et qui vous donne toutes ces choses. Donc, allez pas juste demander à Dieu la sagesse, demandez son esprit. Et faites-lui confiance qu'il vous l'a déjà donné avant que vous le lui demandiez. Parce qu'en fait, quand on se donne à lui, il nous donne son Saint-Esprit. Alors, c'est des choses qui me posent question. Est-ce qu'il ne faut pas redemander une deuxième couche? Encore une fois, j'y retourne, hein, mais... Est-ce que j'en ai eu suffisamment de son esprit? Est-ce que j'ai été rempli complètement? Est-ce que je suis encore rempli? Je pense qu'il nous le donne au départ et qu'il faut constamment rester auprès de lui pour continuer à être rempli. Un peu en fait comme un récipient qu'on remplit, mais qui finalement se vide tout doucement. Il faut le ramener très régulièrement près du robinet pour qu'il reste rempli. Et si je veux être rempli de l'Esprit du Seigneur, il faut que je reste près de lui et qu'au fur et à mesure, il puisse m'inonder, il puisse me remplir. Alors, pourquoi est-ce que Jésus, il était sage? Pourquoi est-ce que Jésus, il était sage? Bah, simplement parce qu'il avait cet esprit-là, c'était le sien. Il n'avait pas besoin de demander à Dieu, hein, si vous m'avez suivi tout à l'heure. Il l'avait de base parce que c'est son esprit, donc il est sage. Alors, qu'est-ce que la sagesse change dans notre vie? Tu peux y aller ce coup-ci. Alors, dans Jacques 3, verset 13, c'est encore une fois un exemple. Si vous tapez sagesse dans une concordance, il doit y avoir une pile de versets. Je vous en ai pas mis la moitié. Donc dans Jacques 3, verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» J'espère que personne ne répond oui, parce qu'on a vu des versets tout à l'heure où ça disait qu'il ne fallait pas se croire sage et intelligent. Hein. Donc « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnel, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » On a vraiment le contraste en fait entre la sagesse des hommes, qui est donc elle est qualifiée de terrestre, charnelle et diabolique. Mais en fait, c'est même pas la sagesse des hommes dans un sens, c'est la sagesse du diable. Et là, c'est encore pire. Donc qui amène des disputes, qui amène du zèle, le mensonge et finalement toutes les mauvaises œuvres qui suivent. Et la sagesse de Dieu qui est d'en haut, on le voit dans la deuxième partie du verset, qui est pacifique, modérée, conciliante, pleine de bons fruits. Et là, on a presque l'impression de retrouver 1 Corinthiens 13 et les conséquences de l'amour, en fait. Et les conséquences de la sagesse sont les mêmes. Alors, la sagesse, malheureusement, n'est pas dans le fruit de l'esprit, en Galates 5. Ça me chagrine un petit peu. Mais je me dis, il s'est limité à un certain nombre de fruits de l'esprit, mais en fait, c'est comme si la sagesse en était un. C'est la même chose, en fait. Elle a les mêmes conséquences dans notre vie. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ces versets-là, en fait, ils parlent d'eux-mêmes, j'en rajoute autour, mais je devrais juste vous passer les versets et vous laisser lire. Mais comme c'est lisible... Diapo suivante. Donc dans 1 roi 3, verset 28, « Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. » Dans Luc 21, verset 15, « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Alors, à quoi sert la sagesse? C'est la question que j'avais mis en haut. Dans le cas de Salomon, ça lui servait à diriger le peuple que Dieu lui avait donné. Ça lui l'aidait à prendre les décisions, et tout Israël l'a reconnu. Dans Luc 21, on voit que ça sert à lutter contre les adversaires et à ce qu'ils ne puissent pas nous contredire. Et en fait, il y a un exemple qui est peut-être plus concret, plus parlant dans Actes 6, verset 8. Donc il dit « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. » Alors qu'est-ce qu'on en comprend de ces versets? La sagesse, elle sert en fait, pour moi, à accomplir ce que Dieu nous a donné à faire, à le faire correctement. Dans le cas de Salomon, il lui avait donné un peuple à diriger, et quand il a demandé la sagesse, il l'a eu, et on voit que là, il pouvait diriger le peuple correctement, il pouvait rendre des jugements et gérer les affaires correctement. Dans le cas de Luc, je pense que le travail qu'on a à faire, et donc c'est celui d'Étienne en fait, après, Étienne c'est l'exemple concret de ce qu'on voit dans Luc 21, c'était d'annoncer l'évangile. Et du coup, il a la sagesse de Dieu pour l'aider à annoncer l'évangile, pour que les gens ne réussissent pas à le contredire, ne réussissent pas à lui résister. Et je pense que c'est ça l'idée dans ces versets-là. On le voit aussi un peu, alors je pense pas que je l'ai mis. Non. J'aurais pu le mettre aussi quand on parle de Bezaléel dans l'Ancien Testament. Donc qui a été un ouvrier qui a fait le temple de Dieu. Le tabernacle. Oui. Donc qui a réalisé beaucoup d'objets dans le tabernacle. Et en fait, ça dit que Dieu lui a donné beaucoup de sagesse. Et beaucoup de sagesse pour réaliser tous les ouvrages qu'il lui avait donné à faire. Et on retrouve cette même idée que là, en fait, que Dieu donne sa sagesse, pas juste pour faire bien, pas juste pour connaître la Bible, pas pour un tas de choses qu'on peut s'imaginer, on peut donner plein d'exemples, hein. Mais il donne la sagesse pour accomplir ce que lui, il a donné à faire, pas pour ce que nous, on veut faire. Et là, la chose principale qu'il nous donne à faire, c'est d'annoncer l'Évangile. Et à ce niveau-là, on peut demander de la sagesse à Dieu pour annoncer correctement l'Évangile, pour savoir comment faire les choses et que ça soit lui qui dirige. Ça soit pas juste nos idées à nous, qu'on se fasse nos plans, nos méthodes pour aller évangéliser les gens, mais que ça soit vraiment sa sagesse à lui qui nous dirige, même si des fois ça paraît fou, ça paraît pas très cohérent, mais si on est sûr que ça vient de Dieu, alors lui il a sa cohérence, lui il a sa sagesse et sa façon de faire les choses. Alors l'autre exemple aussi, j'ai pas mis, mais vous le connaissez tous, c'est Jésus. On le voit partout, en fait, dans tout le Nouveau Testament, les pharisiens ne pouvaient pas lui résister. On pourrait lui appliquer le même verset que ce qui est dans Actes 6. Jésus, personne ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et le moment où c'est visible, il est gros comme une maison, mais c'est vraiment épatant, c'est quand il discute avec les pharisiens, avec tous ceux qui viennent, qui cherchent à le piéger, à lui poser des questions, et systématiquement il leur répond. Et ils peuvent absolument rien faire, parce qu'il a cette sagesse de Dieu. Et alors le but pour lui n'était pas je vous ai cassé, je vous ai bien renvoyé, maintenant fichez-moi la paix. Le but pour lui c'était d'annoncer l'évangile et qu'ils arrêtent de mettre des bâtons dans les roues et de détourner le peuple de lui. Ça servait à annoncer l'évangile, comme ça devrait nous servir à nous aussi. Alors, on a le même verset à propos de Saul, donc la diapo suivante. Donc, cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Et à propos d'Apollos, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Voilà à quoi elle sert la sagesse de Dieu. Si je dois la demander, c'est pour ça. Alors si vous revenez maintenant, on va s'arrêter là. Dans le passage de 1 Corinthiens au départ, on peut le reprendre un peu et juste voir les idées qu'on a vues là. Mais je vous encourage juste à aller lire tous ces versets. Prenez votre concordance, c'est aussi bête que ça. Regardez les versets sur la sagesse et lisez, parce que c'est vrai que moi je parle beaucoup. Mais en fait, les versets parlent d'eux-mêmes, ils sont très très clairs. Donc on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens. Et en fait, ce qu'on a lu là, ça vient compléter un peu, si je peux me permettre, le passage de 1 Corinthiens 1, verset 17. Donc ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, ce n'est pas pour faire du chiffre, ce n'est pas pour faire comme les hommes font, à vouloir enrôler le maximum de gens juste pour en avoir beaucoup. Mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, la sagesse humaine, donc la première qu'on a vue, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Parce que tous les diplômes, tout ce qu'on peut apprendre, toute la connaissance qu'on peut accumuler par nous-mêmes, ça rend la croix de Christ vaine. Ça la réduit à zéro. Et finalement, c'est presque un danger d'avoir trop de sagesse par nous-mêmes. Et c'est ce qui est dit après, en fait. Ça nous empêche de le voir, ça nous empêche de le connaître, et ça nous empêche de recevoir sa sagesse à lui. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne sont pas sauvés. Donc au verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, qui ne sont pas sauvés. Et pourquoi c'est une folie? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. On a eu tout à l'heure, la sagesse, l'Esprit de Dieu, c'est lié. Les gens qui ne sont pas sauvés n'ont pas son Esprit et donc n'ont pas cette sagesse. Mais pour nous qui sommes sauvés, donc on a reçu son Esprit, elle est devenue une puissance de Dieu. Et donc les versets suivants, où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est « cherchez pas la sagesse des hommes, parce qu'elle vous empêchera de le voir, elle vous empêchera de le connaître. » Et Dieu, il a une... Alors c'est pareil dans Jérémie... Jérémie. Donc Dieu qui dit « Mes projets ne sont pas... » C'est ça. On va y retourner, comme ça je dirai pas de bêtises. Alors c'est pas celui-là auquel je pensais, mais ici, il est pas loin. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » J'avais en tête l'idée de « mes plans ne sont pas vos plans, ma sagesse n'est pas votre sagesse ». Il y a un verset comme ça aussi, mais je ne l'ai plus en tête. C'est ça. D'accord, ben voilà. Donc mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est ça que j'avais en tête. Ça vient vraiment expliquer Corinthiens, le passage dans 1 Corinthiens, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. On ne peut pas mélanger les deux. Laissez tomber les pensées des hommes, laissez tomber la sagesse des hommes et demandez celle de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 6 à 10, on avait lu... Dans le deuxième verset de Corinthiens qu'on avait lu, donc 1 Corinthiens 2, verset 6, on retrouve en fait l'idée que les hommes ne possèdent pas la sagesse naturellement. Ils ont leur propre sagesse, mais ils n'ont pas celle de Dieu. Et il faut absolument demander l'Esprit de Dieu pour recevoir sa sagesse. Voilà le verset 7. « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. » On avait aussi un verset dans Job comme ça qui disait « Où est la sagesse ? Elle est cachée aux yeux de la mort, elle est cachée aux yeux des hommes et seul Dieu la connaît. » Donc tous les versets qu'on a lus là, en fait, on les retrouve dans le Nouveau Testament. Il y a toujours des versets qui sont identiques des deux côtés. Il n'y a pas de... Je reste sur l'idée que je vous ai dit il y a longtemps, il n'y a pas de différence entre le Nouveau et l'Ancien, en fait. On se retrouve toujours des versets en parallèle entre le Nouveau et l'Ancien. Alors, je vais vous en laisser juste un pour terminer. Je ne sais pas si je l'ai mis sur la diapo non plus. Tu peux regarder. C'est pas celui-là. Alors, c'est Éphésiens 1, verset 16. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Le mot « révélation », il est important aussi. C'est-à-dire que c'est uniquement donné par Dieu. Vous ne pouvez pas y accéder vous-même. « Dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, » donc pas les yeux de votre tête, pas les yeux de ce que vous pouvez comprendre vous-même, « pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Vous le comprenez, vous, ce verset? Je trouve qu'il est très, très compliqué, et du coup, ça m'encourage à chercher la sagesse de Dieu pour le comprendre, pour comprendre c'est quoi cette espérance qui s'attache à son appel, pour comprendre c'est quoi la richesse de la gloire de son héritage. Rien que ça, ça peut prendre un temps pas possible à dire ça, l'héritage de Dieu, ça veut dire ça, la gloire, la richesse de la gloire de son héritage. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance et qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. On a tellement de choses à connaître de Dieu, et pas juste pour nous, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas juste apprendre à le connaître juste pour moi-même et puis c'est tout, c'est apprendre pour pouvoir le donner aux autres. Et si on ne connaît pas assez, on ne peut pas le présenter assez aux autres. On ne peut pas évangéliser correctement si on ne le connaît pas assez nous-mêmes. Donc je vous encourage à pas chercher la sagesse telle qu'elle, mais à chercher l'Esprit de Seigneur, à le chercher lui-même pour le connaître, et qu'on puisse être après rempli de son esprit, rempli de sa sagesse pour annoncer l'Évangile et le présenter aux autres après. Seigneur, je te remercie pour toutes les choses qu'on peut voir dans ta parole à propos de la sagesse. Merci Seigneur de ce que ça n'a pas de rapport, pas de comparaison avec ce que nous on peut connaître avec notre propre intelligence. Et je te prie pour chacun Seigneur que tu lui montres qu'il n'est pas sage Seigneur à tes yeux, il n'est pas rempli de connaissances, mais Seigneur c'est toi seul qui peux donner ces choses. Seigneur merci parce que quand nous reconnaissons que nous n'avons pas cette sagesse, que nos propres idées ne sont rien en face de toi, alors tu nous remplis de toi Seigneur et tu nous donnes ta sagesse à toi. Merci pour toutes choses, Seigneur, et aide-nous à comprendre ce dernier verset, aide-nous à intégrer toutes les richesses que tu veux nous donner. Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour te connaître. Amen.